Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous et merci d'être venus ce soir aussi nombreux pour assister à la conférence de Madame Claire Mingon. Claire Mingon est historienne de l'art, elle est maître de conférence à l'université de Rouen, maître de conférence en histoire de l'art contemporain. Elle a beaucoup travaillé sur les arts pendant la guerre, la Grande Guerre, et elle a publié Le Louvre et la Grande Guerre 1914-1921. Elle fait partie de plusieurs comités scientifiques, parmi lesquels, je ne vais pas tous les citer, je vais citer simplement la Société de l'Histoire de l'Art Français. Elle est membre de plusieurs, là aussi, comités de rédaction. Je vais signaler le comité de rédaction de la revue Études Normandes et de la revue. Elle a travaillé sur les peintres impressionnistes et sur Claude Monet, et elle a publié une anthologie de textes, la Bibliothèque de Monet, sous la direction de Ségolène Le Menn, aux éditions Masneau, Citadelle et Masneau. Et pour la conférence de ce soir, vous connaissez son titre, Monet. Oui, mais Manet, Monet, vous savez, c'est, il n'y a qu'une voyelle, hein, voilà. Alors je recommence, Monet, hein, ne vous trompez pas, c'est pas Manet. Et la tragédie impressionniste. Il me reste, Claire, à te remercier beaucoup, parce que Claire, je la connais depuis très très longtemps, d'être ici ce soir parmi nous. Et je vous demanderai d'éteindre tous vos téléphones, ainsi ça serait parfait. Merci.
Bonsoir, messieurs, dames. Vous m'entendez correctement? Oui, non? Mieux, ah mieux, il faut effectivement parler très près du micro. Hop, ça va pour la lumière, tout va bien, très bien. Eh bien, je tiens à remercier mon amie Marie-Claire, donc, qui m'a fait cette invitation, ainsi que les amis du musée. Et bien évidemment, à vous tous qui êtes là ce soir, je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous pour vous présenter cette conférence autour de Claude Monet, donc qui est un, comme vous le savez, un grand peintre impressionniste auquel nous sommes très attachés en Normandie, bien sûr, et donc j'ai eu l'occasion effectivement de travailler sur Monet, je vais y revenir plus en avant. J'ai choisi en fait d'intituler cette conférence « Le sublime et le tragique », dans le sens où la dimension sublime du paysage de Monet a été relativement travaillée par les historiens de l'art, mais je vous en montrerai la définition et des exemples. En revanche, c'est vrai qu'il existe encore des facettes relativement méconnues dans l'œuvre et dans la personnalité de Monet, et c'est ces aspects en fait que je voudrais travailler avec vous, notamment cette dimension un petit peu absolue en fait dans le caractère de Monet, qui l'a toujours poussé à être très en proie au doute dans son travail. Alors ça nous paraît toujours étonnant aujourd'hui, puisqu'il est un grand maître, collectionné et fêté à travers le monde, de penser qu'il a toujours considéré son travail comme inachevé et douté énormément de lui-même. Donc c'est un petit peu le sujet de cette conférence, et de voir finalement les tensions, on va dire, à l'intérieur de son œuvre et ce doute permanent qui l'habite. C'est vrai que quand on pense à Monet, bien sûr, c'est un peintre que l'on associe à la peinture de plein air. C'est bien sûr celui que l'on appelle le maître de Giverny, et parfois d'ailleurs que l'on présente d'une manière un peu caricaturale, je tiens à le souligner, comme étant le peintre jardinier. En fait, Monet a beaucoup cultivé lui-même cette image d'Épinal le concernant, parce qu'il n'aimait pas tellement que l'on vienne l'embêter à Giverny. Et donc, pour faciliter, pour un petit peu éloigner les journalistes, etc., il n'hésitait pas finalement à être assez presque un peu trop modeste le concernant. Et c'est vrai qu'on le présente un peu sous cette forme un peu réductrice. En fait, Monet est un homme extrêmement lettré. Moi qui ai eu l'occasion de travailler sur sa bibliothèque, je peux vous dire que c'était un homme d'une grande culture. Et on le présente aussi beaucoup, vous savez, l'impressionnisme a cette image, d'ailleurs contre laquelle on réagit en tant qu'historien de l'art. C'est vrai qu'il y a toute une émulation aujourd'hui, notamment chez les jeunes chercheurs, pour retravailler sur l'impressionnisme, parce que l'impressionnisme a un peu une image de peinture facile. hein, l'air de dire, d'ailleurs c'est ce qu'on lisait parfois dans les journaux, l'air de dire il suffit de mettre trois chefs-d'œuvre impressionnistes pour faire venir le public. Or, c'est vraiment une vision totalement caricaturale de l'impressionnisme, et c'est donc aussi ce que je voudrais m'employer à démontrer. Et donc cette idée effectivement que Monet est un peintre de la joie, donc ça c'est vrai que c'est une image qui a été défendue par les journalistes, un peintre de la lumière, c'est une vérité, c'est une réalité, la lumière était bien évidemment au cœur de son esthétique. Ceci dit, la lumière n'existe qu'en rapport avec l'ombre, il y a cette dualité en fait que l'on méconnaît parfois dans l'œuvre de Monet. D'ailleurs, le destin de Monet se situe, pour reprendre l'une de ses formules, entre la lumière et la grande ombre. Il s'agira donc, dans cette communication que j'ai le plaisir de faire devant vous, de relativiser certains mythes attachés à Monet et d'éclairer aussi sa vie chaotique en montrant qu'il était un homme épris d'absolu, ce que lui appelle l'impossible, et que donc, de fait, en vertu de cette quête idéaliste, il est toujours demeuré un grand insatisfait et un profond angoissé. En effet, Monet était un perfectionniste, et comme vous le savez, le mieux est l'ennemi du bien. Et Mirbeau, son ami Octave Mirbeau, d'ailleurs, avait reconnu finalement cette qualité qui était devenue un défaut chez lui, quand il lui dit, je cite, « Vous êtes atteint d'une maladie, d'une folie, la maladie du toujours mieux. » D'où ce contraste entre la dimension sublime de la peinture de Monet, c'est-à-dire ce goût pour l'exaltation, pour la grandeur des paysages, mais aussi la dimension tragique, c'est-à-dire cette émotion dramatique et intense que l'on peut sentir dans certaines des œuvres de Claude Monet. Monet est un artiste qui n'a pas livré de théorie. Ce n'est pas un peintre théoricien, comme Signac ou comme Delacroix, par exemple. Il n'a pas non plus écrit de mémoire. Par contre, il s'est livré à une intense correspondance qui a été bien publiée. Donc, on a beaucoup de lettres de Monet échangées avec notamment sa femme et aussi avec ses amis, qui sont donc une matière que les historiens de l'art ont pu exploiter. Et c'est vrai que sa vie a fait l'objet de nombreuses études, à la fois par ses contemporains et amis. Je pense évidemment à Georges Clémenceau, notamment, mais aussi à Gustave Geffroy, et par ailleurs donc à tout un travail historiographique sur la figure de Monet. Donc j'ai mis ici quelques exemples pour vous montrer évidemment la pléthore de publications qui peuvent le concerner, et en vous donnant aussi quelques indications de lecture. Je pense que si vous avez envie de lire une bonne biographie, je trouve que celle de Pascal Bonafou est quand même la plus vivante et je dirais la meilleure. Bon, il y a évidemment les livres aussi de Marianne Alphand qui sont très connus, Une vie dans le paysage. Plus beau cadeau de Noël, la très très belle biographie de Ségolène Le Menn sur Monet, en fait, où elle développe d'ailleurs des théories assez neuves concernant Monet. Ici, la bibliothèque de Monet, donc dont on avait fait l'inventaire, et puis bien évidemment le travail qu'avait fait Daniel Wildenstein, c'est-à-dire un grand marchand d'art qui était l'un des marchands de Monet après sa mort, qui a fait le catalogue raisonné des œuvres de Monet. Donc c'est un petit peu la Bible, on va dire, en quelque sorte, concernant l'authenticité, enfin les œuvres authentiques de Monet. Donc il y a évidemment beaucoup de choses que l'on peut exploiter concernant et se documenter évidemment sur la vie de l'artiste. Alors, si vous me le permettez, pour débuter cette traversée un peu dans des sillons un peu neufs, enfin en tout cas un peu inexplorés, inexploités dans la vie de Monet, je vais débuter par la fin. Par la fin, c'est-à-dire par la mort de Monet, ce qui est toujours, vous n'en douterez pas, vous serez d'accord avec moi, un moment tragique dans une vie, hein, la fin, avec cette très très belle image. Et qui contraste en fait avec ce que Monet avait espéré, en tout cas si l'on s'en remet à ce vœu qu'il avait confié au peintre Jacques-Émile Blanche, où il lui avait confié le fait qu'il aurait aimé mourir en mer et être enterré dans une bouée. Bel hommage à cette mer qui a été l'un de ses sujets de prédilection. Eh bien donc, Monet n'est pas mort en mer, n'a pas été enterré dans une bouée, il est mort à Giverny, d'accord, dans cette maison dont on reparlera, à l'âge de 86 ans, en décembre 1926. Alors ce sont des photographies absolument d'une grande émotion, parce que l'on voit le tigre, hein, vous l'apercevez au milieu, avec ses moustaches blanches, c'est bien sûr son vieil ami Clémenceau, 85 ans, qui est venu au chevet de Monet, alors qu'il se trouvait en Vendée, naturellement, sa terre natale est là où il a vécu dans ces dernières années. Quand il a su que Monet était à la fin de sa vie, il a foncé en voiture, accéléré avec son chauffeur pour être là pour les derniers instants de Monet. Et c'est lui qui lui a fermé les yeux, en quelque sorte. Et donc, Clémenceau, qui n'était pas très prompte aux émotions, pleure sur cette photographie. Pour lui, c'est évidemment un signe extrêmement, extrêmement fort et tragique que la fin de Monet. Monet avait donné des consignes à Clémenceau et à ses proches concernant ses funérailles. Vous imaginez que Monet, en 1926, est le dernier Mohican de l'impressionnisme, si je veux dire, tout le monde est mort quasiment, enfin tout le monde est mort avant lui. Et c'est un homme extrêmement célèbre. Avec Rodin, c'est le plus grand artiste français dont la notoriété est totalement internationale à cette époque. Et donc, évidemment, sa mort est annoncée dans la presse, c'est un événement, et beaucoup de personnes sont potentiellement susceptibles de se rendre à ses funérailles. Or, Monet veut la simplicité. Justement, il ne veut pas toute une théâtralité autour de ses funérailles. Et donc, il demande, et ça c'est intéressant, il ne veut aucun décor. Il ne veut, je le cite, il serait, dit-il, vraiment sacrilège de saccager à cette occasion toutes les fleurs de mon jardin. Monet ne veut pas sacrifier la nature à la mort. Pour lui, la nature est un élément, je dirais, sacré, hein, dans le sens où elle est toujours plus forte que les hommes puisqu'elle se régénère en permanence. C'est ce tempérament profondément panthéiste de Monet qui s'exprime ici, et ce panthéisme d'ailleurs, seul Clémenceau l'avait vraiment bien perçu du vivant de Monet. On connaît aussi les propos rapportés par Sacha Guitry à l'enterrement de Monet. À l'enterrement, Clémenceau aurait retiré le drap noir qui se trouvait sur le cercueil de son ami, ajoutant cette phrase « pas de noir pour Monet » et lui aurait substitué, je cite, « une crétonne ancienne aux couleurs des pervenches, des myosotis et des hortensias ». Donc c'est ce drap que l'on voit effectivement sur le cercueil. Il y eut donc bien des fleurs sur le cercueil de Monet, du moins un ersatz de fleurs, des fleurs de tissu. Alors c'est vrai que ces moments sont assez intenses. Clémenceau était terriblement affecté parce que les hommes s'étaient beaucoup rapprochés dans la dernière période de leur vie. Et d'ailleurs, quelques mois après la mort de Monet, en 1926, les nymphéas que vous connaissez au musée de l'Orangerie seront inaugurées en présence de Clémenceau, mais donc en l'absence de Claude Monet. Quand on pense à Monet, en effet, ce n'est pas la couleur noire qui nous vient à l'esprit. Hein. D'ailleurs, le noir était absent de sa palette, il l'avait retiré, comme l'a remarqué d'ailleurs son ami Sargent, venu à Giverny en 1887, qui remarque qu'il n'y a pas de tube de noir dans l'atelier de Monet. Quand on pense à Monet, bien sûr, ce sont des toiles beaucoup plus lumineuses et iconiques qui nous viennent en tête, comme les Coquelicots, par exemple, de 1873. Mais n'oublions pas que ces fleurs, comme d'autres, hein, comme les nymphéas, par exemple, qui apparaissent dans les toiles de Monet, sont des fleurs qui ont une puissante symbolique. Les Coquelicots, par exemple, sont les fleurs du sommeil, de la mort, de l'oubli. Et Monet, comme l'ont d'ailleurs montré ses plus grands exégètes et biographes, était un artiste mu par un profond symbolisme de la nature, et il n'oubliait jamais la double lecture possible des symboles. La femme qui apparaît au premier plan de ce fameux tableau est sans doute Camille Doncieux, qui était la première femme de Monet, morte en 1879, je reviendrai sur elle un peu plus tard, avec leur premier fils, Jean. Gardons, si vous le voulez bien, ces deux dates en tête. 1879 et 1911. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que ça représente deux moments importants dans la vie de Monet. En fait, deux années difficiles où il est confronté au deuil et qui ont représenté pour le peintre des moments de dépression. Tiens, voilà un mot curieux que l'on n'a pas l'habitude d'associer à Monet. Le mot de dépression, Monet a vécu dans sa vie deux grandes dépressions qui l'ont beaucoup affecté et qui sont en fait attachées aux deux périodes de deuil qu'il a vécues, c'est-à-dire la mort de sa première femme Camille en 1879 et la mort de la deuxième Alice en 1911. Ceci dit, des pertes terribles, il en a connu d'autres, Monet. En fait, il a connu de nombreux deuils. D'abord sa mère, qu'il a perdue quand il avait 16 ans, son ami intime Frédéric Bazille en 1870, sa belle-fille Suzanne Ojeday en 1899, son fils Jean en 1914. Pas de la Grande Guerre, mais d'une maladie qu'il avait contractée juste avant la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, ces deux femmes. Et puis d'autre part, souvenons-nous que Monet a craint de voir mourir son œil d'artiste, puisqu'il a connu, comme vous le savez, il a craint de perdre la vue, hein, il a eu des problèmes de vue, on le verra tout à l'heure, à la fin de sa carrière. Aussi, si la thématique du noir n'apparaît pas dans son iconographie, elle revient en permanence dans ses lettres. Monet écrit souvent dans sa correspondance « Je suis au noir » ou bien « Je vois tout en noir ». C'est assez curieux pour nous qui n'avons pas l'habitude de voir justement cette couleur sur ces tableaux. Ce que cela veut dire, à mon avis, et c'est en ça où je voudrais justement faire une proposition un petit peu pour sortir de cette lecture un peu caricaturale que l'on a de l'impressionnisme, cette idée que c'est une peinture facile, etc., c'est que, d'ailleurs, c'est vrai aussi hein, pour le paysage en général, et notamment le paysage romantique. Monet a toujours dit qu'il n'était pas un romantique, mais en fait, il a de grandes facettes romantiques dans sa personnalité, et il y a d'ailleurs des nombreux points de rapprochement avec un peintre comme Turner, par exemple. Même dans son attitude, j'y reviendrai. Ce que je propose, c'est en fait de considérer le paysage, non pas comme une représentation toujours objective de la réalité. L'une des questions qu'on me pose sur l'impressionnisme, c'est est-ce que l'impressionnisme est une peinture objective ou subjective de la nature ? Je dirais que le paysage, en fait, est chez Monet une forme d'autoportrait intérieur. Il y a, en fait, c'est une vision subjective, en quelque sorte, de la nature objective. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ces deux aspects, en fait, qui s'entremêlent dans sa peinture. C'est pas qu'une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, c'est aussi une sorte d'autoportrait en creux de l'artiste. Dans ces paysages, on peut voir la photographie de ses sentiments, de ses défis, de ses limites, de ses espoirs et de ses doutes également. Tout ce que montre Monet dans ses paysages ne tient pas que au visible, mais aussi à l'invisible. Et Paul Claudel avait très bien perçu cette qualité chez Monet quand il le présentait, je cite, comme le peintre direct de ce que l'on ne voit pas. Le peintre direct de ce que l'on ne voit pas. Monet est un homme à la psychologie beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, c'est un homme en perpétuelle recherche et, comme je le disais, en proie aux doutes les plus forts et constants. Sa vie, d'ailleurs, est assez incroyable parce qu'elle est marquée par un revirement extrêmement violent ou spectaculaire de la pauvreté vers le succès, de la satisfaction vers le doute dans lequel il balance toujours, comme le résume très bien son ami Clémenceau en 1924, je cite « Mon pauvre vieux Maboule ». Alors, il aimait bien aussi l'appeler « Mon vieux crustacé » ou alors « Vieux bébé ». Quand Monet se plaignait, il lui écrivait « Arrête, vieux bébé, sois patient un peu ». Alors voilà, c'était la marque de leur amitié. « Mon pauvre vieux Maboule, vous avez passé votre vie entre des crises de succès et des réactions de défiance envers vous-même. C'est la condition même de votre triomphe. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », donc semble lui rappeler Clémenceau, qui a lui-même vécu des hauts et des bas impressionnants au cours de sa carrière politique. Monet, que l'on voit ici à l'âge de 5 ans, aurait-il pu prévoir qu'un jour de mai 2019, l'année dernière, une de toiles de sa série des Meules serait acquise à New York pour 110,7 millions de dollars chez Sotheby's, un record pour l'artiste, mais aussi un montant parmi les 10 plus hauts jamais atteints aux enchères. Je ne sais pas ce que Monet en aurait pensé. Aurait-il été amusé, flatté, surpris ? Non, en fait, je sais ce qu'il en aurait pensé, parce qu'en relisant les lettres qu'il écrit à ses marchands, quand ses toiles commencent à prendre beaucoup de valeur, il est particulièrement agacé et consterné par, je dirais, la spéculation autour de l'art. La spéculation, Monet était un homme qui aimait l'argent à la fin de sa vie parce qu'il en avait manqué, mais ce n'était pas quelqu'un qui dépensait pour des babioles. Il faisait réparer sa maison, et c'est vrai qu'il s'est offert une voiture de course parce qu'il aimait la vitesse, mais ce n'était pas quelqu'un dans le clinquant. Et il était irrité, en fait, par cette surenchère qui se produisait autour de son œuvre. Donc je ne crois pas qu'il aurait été surpris d'une manière très positive autour de cela. Il faut dire aussi, avant de rentrer encore plus en avant dans notre sujet de ce soir, qu'il y a effectivement ce que l'on appelle les impressions. Je voulais en dire un mot parce que peut-être vous interrogez-vous sur termes d'impression. Je vous renverrai, si ça vous intéresse, pour vraiment une lecture fine et je crois très intéressante, au livre que j'avais montré dans l'une des premières diapositives, qui était le petit livre rouge en bas à droite. C'est un livre d'un historien de l'art américain qui s'appelle Richard Bretel. Richard Bretel avait organisé dans les années 70 une exposition qui a fait du bien à l'histoire de l'impressionnisme, qui a donné suite à un catalogue et un livre. C'est-à-dire qu'il a vraiment dépoussiéré la vision que l'on avait de l'impressionnisme en s'interrogeant sur la performance esthétique que l'impressionnisme représente. C'est-à-dire, c'est pas que des toiles jolies, que des toiles décoratives. Il défend cette thèse qui me paraît très juste, qu'il existe deux types de peintures qu'a pu peindre Monet et ses amis, Renoir notamment. Il existe des impressions et des œuvres impressionnistes. Il fait la différence en fait entre ces deux possibilités. Il y a les œuvres impressionnistes, c'est-à-dire celles qui nous montrent très souvent les sujets auxquels nous sommes habitués, les bords de Seine, la naissance des paysages industriels, le canotage, etc., les occupations le dimanche à la Grenouillère et tout ça. Donc il y a effectivement cette thématique, ce tropisme-là. Et puis, il y a à l'intérieur de la production de Monet une faible quantité de toiles, peut-être 10% de sa production, qui sont vraiment des impressions. Qu'est-ce que c'est qu'une impression ? Bretel nous dit, c'est une œuvre performative. En fait, c'est un défi que l'artiste a lancé à la représentation du paysage. Ce sont des toiles qui sont peintes dans l'urgence. L'urgence que l'artiste s'impose comme une sorte de défi qu'il lance au temps et à la peinture classique également. Et Impression Soleil Levant est l'une des premières impressions de Monet. Mais il en peindra certaines autres, notamment à Londres par exemple, c'est-à-dire ses peintures très vite. Très très vite, parfois en une journée, en deux journées, ne laissant pas le temps à la toile de sécher. Et on voit cette spontanéité, Bretel emploie ce terme de performance. Alors évidemment, il faut utiliser ce terme avec précaution, parce que vous savez que la performance, ça nous renverrait plutôt à l'art des années 1960-1970. Mais il dit que c'est une peinture performative. Et cette vision-là, ça montre qu'il y a, si vous voulez, un enjeu esthétique. Et que les œuvres impressionnistes, ce n'est pas simplement peindre un port industriel ou même faire joli. Non, Monet était un homme de défi. Et il a lancé un défi à la peinture de paysage en essayant de peindre le plus vite possible, en quelque sorte. Impression Soleil Levant, c'est une œuvre, c'est une impression. Et elle est exposée, comme vous le savez, dans la première exposition du groupe des impressionnistes en 1874. Alors, voilà, je fais cette petite parenthèse pour que vous compreniez bien qu'il y a des impressions et des œuvres impressionnistes et que donc on peut faire la différence entre les deux. Je reviens sur notre Monet, sur cet homme qu'il était. Pour vous le présenter, pour vous rappeler quelques petits détails avant de rentrer dans sa vie intime quand même. Monet est né en 1840. Il est né la même année que Rodin. Sacha Guitry m'a bien souligné ce point que l'année 1840 avait vu la naissance des deux grands génies de l'art français. À Paris. Monet est né à Paris, mais il a passé son enfance en Normandie, au Havre. Alors j'adore ce portrait qu'on ne connaît pas tellement, à l'âge de 25 ans. Et c'est un jeune homme, un jeune garçon qui n'est pas du tout scolaire. Il le confiera dans des interviews. Il préfère courir l'école buissonnière, les falaises et se baigner dans la mer que se trouver sur les bancs de l'école. Il perd sa mère à l'adolescence, comme on l'a dit, et il entretient des relations complexes avec son père. C'est à sa tante qu'il doit de pouvoir faire des études de dessin. Puis il trouve le soutien d'Eugène Boudin. Au départ, Monet n'était pas du tout conquis par l'idée de peindre en plein air. Et Boudin l'a traîné, en quelque sorte, sur les plages. Et là, Monet reconnaîtra plus tard sa dette envers Boudin en disant « c'est lui qui m'a vraiment appris ce qu'était la peinture ». Et donc, avec un peu d'argent amassé, il va monter à Paris. Et puis donc s'inscrire malgré tout, non pas à l'école des Beaux-Arts, mais dans un atelier académique, on va dire, en dehors de l'école des Beaux-Arts, où il fait l'atelier de Gleyre, G-L-E-Y-R-E, et non pas avec un A, où il fait la connaissance de Renoir et de Basile. Et donc là, très vite, ces trois peintres se détournent, on va dire, de la peinture académique et préfèrent aller peindre dans la forêt de Fontainebleau. Il débute au salon, tout ça pour vous montrer qu'il a une carrière, donc tout se passe bien, son père est à peu près rassuré. Mais rapidement, cette voie du salon, c'est-à-dire de l'exposition officielle, un peu comme la FIAC aujourd'hui, si vous voulez dire, c'est-à-dire la voie royale en quelque sorte, hein, on pourrait dire ça comme ça, cette voie va vite lui être fermée, et donc c'est ce qui va être la cause justement de ses tourments. C'est un homme, Monet est un homme sensible, émotif, pudique, qui aime recevoir, manger, jardiner, mais qui est aussi d'un tempérament colérique et parfois renfermé. C'est un anxieux. Et cela se révèle dans sa correspondance. Oui, je vous ai mis quelques petits paysages pour ne pas rester toujours sur la même image. C'est un internel insatisfait qui ne peut vivre que pour son art, mais en même temps souffre par lui. C'est tout à fait une attitude paradoxale, mais ça le maintient, je dirais, aussi en vie. Il se plaint souvent, tout au long de sa vie, de sa condition de peintre. Et il parle carrément, ça ne se sent pas dans les paysages quand on les voit, il parle de sa peinture comme, je cite, « d'un sacerdoce ». Pourquoi ? Parce qu'il est épris d'absolu, il est dans une quête éternelle de perfection, et donc il est éternellement insatisfait. Voyez ce qu'il écrit en 1895, je cite, « Le travail n'est presque toujours qu'une torture. Je poursuis un rêve, je veux l'impossible. Les autres peintres peignent un pont, une maison, un bateau, et ils ont fini. Je veux peindre l'air dans lequel se trouve le pont, la maison, le bateau, la beauté de l'air où ils sont, et ce n'est rien que l'impossible. » Ce fil rouge de l'impossible, en fait, se retrouve jusqu'aux dernières œuvres de Monet, c'est-à-dire jusqu'au dernier Nymphéa de 1924-25. Tout au long de sa carrière, d'ailleurs, et je crois que c'est en cela que Monet est aussi, que l'on aime ou pas Monet, comme artiste, cette capacité qu'a eu Monet de se remettre en question jusque dans un âge très avancé. Quand Monet se lance dans les nymphéas, je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure, il a 80 ans. C'est un travail à lui incroyable et aussi d'une grande... il faut une force physique impressionnante pour mener ce travail. Et surtout cette capacité qu'il a de vouloir se redéfinir, même, je dirais, dans le quatrième âge. Je crois que c'est la marque quand même d'un esprit tout à fait exceptionnel et d'un très grand peintre. Ce doute permanent et cette volonté de créer encore quelque chose de différent, même dans un âge très avancé où on pourrait penser qu'on est un peu plus déterminé ou peut-être parfois défaitiste. Et d'ailleurs, voilà, quand il entreprendra ses grandes décorations à l'âge de 80 ans, il écrira, je vous lis, c'est assez admirable, « C'est une bien grande chose que j'ai entreprise, surtout à mon âge, mais je ne désespère pas d'y arriver si je conserve la santé. » Ce découragement et ce sentiment constamment exprimé par Monet tout au long de sa vie vont être marqués, évidemment, dans certaines périodes plus que d'autres. Cela est lié à deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'incertitude que Monet a de pouvoir vivre de sa peinture et de subvenir aux besoins de sa famille. Et le deuxième facteur, c'est sa dépendance au changement climatique qui le pousse à devenir, je cite, un chasseur d'impressions, comme l'écrit de lui son ami Guy de Maupassant en 1880, qui était fasciné par la démarche du peintre, cette démarche qui émerveilla aussi Clémenceau, qui parlait, je cite, des combats de Monet avec le soleil. Relisons, si vous le voulez bien, quelques lignes de Maupassant, qu'on peut regarder en rapport justement avec ce tableau de Sargent. Je vous lis Maupassant. « Le peintre, en face du sujet, attendait, guettait le soleil et les ombres, cueillait en quelques coups de pinceau le rayon qui tombe ou le nuage qui passe, et, dédaigneux du faux et du convenu, les posait sur la toile avec rapidité. » Je l'ai vu saisir ainsi une tombée étincelante de lumière sur la falaise blanche et la fixer à une coulée de ton jaune, qui rendait étrangement le surprenant et fugitif effet de cet insaisissable et aveuglant éblouissement. Une autre fois, il prit à pleine main une averse abattue sur la mer et la jeta sur la toile. Et c'est bien de la pluie qu'il avait peinte ainsi, rien que de la pluie, voilant les vagues, les roches et le ciel à peine distincts sous ce déluge. Monet est décrit par son ami Maupassant comme un chasseur. Revenons, alors vous verrez que c'est ce défi que ce, ce, enfin, il se met la barre très haut, Monet, hein, donc il y a évidemment des moments qui vont être assez compliqués dans sa vie. Revenons maintenant donc à ces deux périodes dont je vous ai parlé au départ, qui sont les deux dépressions de Claude Monet. Dans un roman daté de 2016, dont je vous recommande la lecture, qui s'intitule « Deux remords de Claude Monet », l'écrivain Michel Bernard identifie donc deux périodes critiques dans la vie de Monet, qui sont d'ailleurs celles durant laquelle Monet tire davantage vers la mélancolie que vers le sublime. C'est-à-dire qu'il est dans des visions du paysage qui est moins tournée vers la grandeur, vers la décadence, mais plutôt, on le verra tout à l'heure, vers des sujets plutôt pathétiques. Un pathétique, c'est-à-dire qui inspire la pitié. Et qu'il donne, donc il va donner à certaines périodes, ces périodes de dépression, ces paysages donnent plus dans l'intériorité que dans la théâtralité. Ce sont donc les années que j'évoquais tout à l'heure, mais un peu plus largement les années 1870-1879, puis les années, on va dire, 1911-1922, hein, à peu près, ce sont deux moments critiques. Et quand on regarde ces deux périodes dans une vie très longue, hein, Monet a une vie très longue, dans ces périodes difficiles dans la vie de Monet, on s'aperçoit qu'elles s'articulent toutes les deux autour des deux femmes de la vie de Monet, Camille et Alice. Les années 1870, je vais commencer par elles, ont très certainement représenté la période la plus difficile dans la vie de Monet, qui était alors un trentenaire désargenté, même s'il aime relativement se comporter en dandy. Il n'avait pas d'argent, mais il entendait quand même maintenir un certain dandysme. Il aurait même, alors justement, il est dans ce paradoxe qu'il n'a pas de moyens financiers, mais en même temps, il a du mal à s'éloigner de Paris. Il veut garder quand même les couleurs coûtent cher, hein, il y a les toiles, le matériel, etc. Donc il est parfois acculé d'ailleurs à des pensées extrêmes, comme en 1868 où Monet tente de se suicider. Hein, il tente de se suicider. C'est du moins ce qu'il confie à mots couverts à son ami Basile, qui est à peu près le seul à cette époque à lui apporter un soutien financier. Je cite Monet dans une lettre. « J'étais si bouleversée hier que j'ai fait la boulette de me jeter à l'eau. Heureusement, il n'en est rien résulté de mal. » Pourquoi Monet était-il si bouleversé? En cette année 1868, la carrière de Monet ne marche plus très fort. Il avait fait parler de lui 2 ans plus tôt, en bien d'ailleurs, au salon de 1866, où il avait présenté ce grand portrait qui avait été remarqué par Émile Zola et par Thoré. Alors justement, Marie-Claire avait devancé un peu, elle a fait ce lapsus intentionnellement, j'en suis sûre, parce que en 1866, effectivement, les critiques avaient tendance justement à confondre Manet, Monet, et ça énervait beaucoup Manet, qui disait « mais qui est ce type ?» qui expose des paysages sous mon nom. Hein, donc ils avaient failli se disputer. Mais en fait, ensuite, ils sont devenus amis. Et donc cette femme à la robe verte, alors c'est très intéressant aussi de noter que les groupes d'artistes ne sont pas si cloisonnés que l'on veut bien l'entendre, parce que Monet a été très ami, par exemple, avec Carolus Duran. Hein, il a été très ami avec lui. Et cette fameuse femme au gant de 1869 est aussi un hommage à la figure de Monet. Et ces deux peintres, Carolus Duran et Monet, sont eux-mêmes des artistes qui admirent Manet, effectivement, qui est leur aîné, et ils s'inscrivent en quelque sorte dans une réflexion sur le portrait, bon, qui était évidemment un genre plus facile à exposer que le paysage au salon. Et donc Monet avait plutôt donné bonne figure au salon de 1866. Malheureusement, 2 ans plus tard, il n'est plus admis au salon. Il présente des paysages, ça ne plaît pas, etc. Il est refusé. Donc l'avenir s'annonce un petit peu sombre. Je vous rappelle que dans ces années-là, le marché de l'art n'est pas développé. Le marché de l'art naît à peu près en galerie dans les années 1840, on va dire, pour l'art moderne, l'art contemporain de l'époque. Mais ce n'est pas évident de trouver comme ça un marchand. Monet n'a pas encore trouvé Durand-Ruel, et Durand-Ruel mettrait aussi quand même pas mal de temps à ce que la peinture impressionniste devienne vendable en quelque sorte. Donc il est ennuyé, il est très embêté par ça, peut-être que c'est l'une des causes de cette volonté de se suicider. D'autre part, il est fâché avec son père, parce que justement, il s'est accoquiné avec cette jeune femme, qui est en fait la poseuse de la robe verte, c'est Camille Doncieux, la première femme de Claude Monet. Et pour couronner le tout, si j'ose dire, il lui a fait un enfant. Et donc le père coupe les vivres à Monet, parce qu'il lui dit, mais non, mais tu dois abandonner cette femme et, cet enfant, tant pis, vous n'êtes pas encore mariés, etc. Il la pousse à abandonner Camille. Or, Monet, qui était sûrement un brave homme, enfin je pense un homme honnête, et n'a pas voulu abandonner cet enfant, même si les historiens de l'art ont souligné aussi ce fait, Monet a toujours eu des problèmes avec la paternité, c'est un rôle qu'il a eu du mal à gérer dans sa vie, et il n'avait pas voulu d'enfant, hein, clairement cet enfant n'était pas attendu, mais Jean va naître en 1867, et il dira dans des lettres qu'il est surpris en fait par finalement cet attachement inattendu qu'il a pour son enfant. Et donc il décide de ne pas abandonner Camille, qu'il appelle quand même dans une lettre cette pauvre femme, hein, c'est pas très agréable, mais bien sûr ça a des conséquences réelles sur sa vie, c'est-à-dire que son père se fâche avec Monet, et d'autre part il a une pression, hein, il n'est plus admis au salon, etc., mais il va lui falloir nourrir deux bouches supplémentaires, d'autant plus que Camille est de santé fragile. C'est étonnant de voir, il y aurait encore des travaux à faire, vous voyez qu'on n'a jamais fini de travailler sur un artiste connu, qu'on croit que tout a été fait sur lui, mais Camille, qui est-elle? Très peu d'informations existent sur Camille Doncieux, on ne sait même pas comment Monet l'a rencontrée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a posé pour lui, mais qu'elle a aussi posé pour d'autres peintres qui étaient proches de Monet, notamment Renoir ou encore Manet, hein, Camille a été l'un des modèles, et puis donc elle a été le modèle effectivement de Monet. Elle a notamment été le modèle de ce curieux tableau exposé à l'exposition impressionniste de 1876 qui la représente avec une perruque blonde. Hein, c'est l'un des seuls portraits vraiment joyeux que l'on connaisse d'elle. Un tableau d'ailleurs qui n'avait pas du tout été goûté à cette époque. On a d'ailleurs reproché à Monet, comme vous voyez, le kimono est tournant et en fait il y a la figure d'un samouraï. Et ce samouraï se trouve à hauteur des fesses du modèle. Et donc, il y a eu des critiques, il y a ça, disons, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est tout à fait, c'est immoral et compagnie. En tout cas, donc, il ne laisse pas tomber Camille, qui d'ailleurs a des origines bourgeoises et apporte un petit peu d'argent dans le couple. Mais les temps sont vraiment durs pour Monet, qui partage ses heures un peu difficiles avec son ami Renoir. Et ça va être dès l'instant où Monet va se mettre en ménage avec Camille, comme ils ont des problèmes d'argent, ça c'est toute l'histoire en fait, pour comprendre pourquoi Monet se retrouve à Giverny en 1883, c'est qu'en fait il s'éloigne de plus en plus de Paris, parce qu'il cherche à échapper à la vie chère en quelque sorte de la capitale, et leur seule possibilité, comme Pissarro aussi, c'est de partir toujours plus loin. Hein, donc ça explique pourquoi Monet s'installe d'abord à Argenteuil, d'abord à Ville-d'Avray, après à Argenteuil, après à Véteuil, après à Poissy, et finalement il atterrira à Giverny, qui évidemment n'est pas, n'attire personne à l'époque, hein, et c'est par volonté de réduire en quelque sorte ses frais. Alors il s'installe donc avec Camille à Ville-d'Avray à cette époque-là. Alors c'est de cette date que, enfin, elle pose encore, il la démultiplie dans ce tableau où on voit qu'il fait des efforts justement pour associer deux thèmes qui sont difficiles à mettre ensemble, c'est la figure et le paysage, et il espère avec ce type de tableau être de nouveau exposé au salon, sauf que cette peinture qui paraît trop plénériste ne plaît pas et est encore refusée. Bon, malgré tout, les temps sont encore. Il a le baume au cœur parce qu'il est quand même jeune et qu'il est proche de son ami, notamment de Renoir, avec lequel il peint cette fameuse, comme vous le savez, ce duo de peinture, enfin ce duo de toile à la grenouillère. On ne se douterait pas tant, finalement, en regardant ce tableau, que Monet n'a quasiment pas les moyens de s'acheter des couleurs à cette époque. Hein. Et en même temps, les historiens de l'art ont souligné aussi, quand on regarde ces deux œuvres, on met en regard Monet avec Renoir, on s'aperçoit que Monet est moins tourné vers les personnages, qu'il y a plus de mélancolie, finalement, dans l'œuvre de Monet que celle de Renoir. Il est plus austère. D'autant plus que, premier coup dur dans cette époque, hein, la perte de Basile. Frédéric Basile était l'ami des débuts de Claude Monet. C'est celui, le seul qui l'a aidé, il était peintre aussi, hein, peintre vient de Montpellier, comme vous le savez. Et en fait, en 1870, Monet échappe à la guerre franco-prussienne en allant s'installer quelques mois à Londres. C'est là d'ailleurs qu'il fait la connaissance de Durand-Ruel, qui deviendra ensuite son marchand, mais leur peinture ne se vend pas à l'époque. Et Basile, lui, en revanche, est engagé au 3e régiment de Zouave contre la volonté de ses proches. Et il va être touché au ventre et mourir quelques jours avant ses 29 ans. Quand Monet revient en 1871 à Paris, il apprend la mort de Basile et c'est pour lui une catastrophe. Basile, donc, ne sera jamais associé à l'aventure des impressionnistes, dont il avait pourtant rêvé. Et d'ailleurs, cette aventure des impressionnistes, pourrions-nous en dire un mot, c'est aussi source de grandes déceptions et de grandes difficultés pour Claude Monet. Il y a évidemment tous ces quolibets qui sont attachés à sa participation à la première exposition des impressionnistes en 1874, dont le titre originel, comme vous le savez peut-être, était « Exposition anonyme des peintres, sculpteurs et graveurs », qui a eu lieu chez Nadar, le fameux photographe. Alors Nadar n'était pas un philanthrope, il ne prêtait pas ses locaux, il les louait, parce qu'il était commerçant. Et donc, on n'a pas de photographie de l'intérieur de cette exposition. Il y a des historiens aussi qui travaillent sur essayer de reconstituer cette exposition 74. En tout cas, comme le montre cette caricature, la peinture impressionniste fait peur. On défendait même, il y a des dessins de presse où on dit à une femme enceinte « ne rentrez pas !» parce qu'on a peur que ça la fasse accoucher sur le carreau. Et donc... Monet, comme on le sait, la toile de Monet, Impression Soleil Levant, qui est présentée, donc qui date de 72, mais qui est présentée en 74 dans cette exposition parisienne, comme vous le savez, donnera le titre justement au groupe des impressionnistes. C'est une raillerie, c'est une blague en fait, c'est une critique qui a été faite. Vous peignez des impressions, mon cher, prenez des impressions. Ah, je me disais bien, vous étiez un impressionniste, mais l'air de dire, en se moquant de lui, quoi, en le prenant pour un barbouilleur. Et en fait, les peintres trouveront ce nom très bien et le garderont finalement pour leurs futures expositions. L'un des reproches que l'on faisait à Monet à cette époque, par exemple, nous on a du mal à sentir aujourd'hui la force de ce reproche, mais on lui disait « Votre peinture, mon cher, c'est du papier peint. » L'air de dire « C'est pas de l'art. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est limite de l'art appliqué. Un papier peint, c'est quelque chose qui n'a pas d'originalité, vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas précieux. Et donc on utilisait ce terme, ce type de comparaison pour le blesser. Et Monet était un homme qui était blessé, bien sûr, par ses critiques. Donc on le taxe de toutes sortes de noms d'oiseaux, et d'ailleurs il est tellement bafoué que dans une vente aux enchères où quelques toiles sont présentées cette même année, des toiles sont presque crevées par des visiteurs de l'hôtel des ventes. Par ailleurs, les participations de Monet aux expos impressionnistes ne lui ont jamais rapporté d'argent. En revanche, elles lui ont fait connaître des personnalités qui vont devenir quand même ses soutiens dans la presse ou qui vont devenir des collectionneurs, comme par exemple Victor Choquet. Mais Impression Soleil Levant, on le sait trop peu, c'est aussi une toile très intéressante dans la vie de Monet, parce que c'est elle qui va lier son destin une autre femme qui va devenir plus tard la seconde femme de Monet, Alice Hochedé. En effet, Alice Hochedé, que vous voyez ici d'ailleurs représentée par Carolus Durand. En effet, la toile Impression Soleil Levant va être achetée à Durand-Ruel, par ce collectionneur qui était le mari en fait de Alice, Ernest Hochedé. Ernest Hochedé achète pour une somme relativement importante par rapport au prix que faisaient les toiles de Monet à cette époque, pour 800 francs, il achète juste après l'exposition de 74 Impression Soleil Levant à Durand-Ruel. Et alors ce type est assez étonnant parce que c'est un gros industriel qui a fait fortune dans le tissu. Et qui donc se pique d'être un collectionneur impressionniste, et il va commander à Claude Monet, après avoir acheté Impression Soleil Levant, il va lui commander des décorations pour un château. Et en fait, le problème, c'est que Hochedé gère mal son affaire, et il est ruiné. En 1877, il est ruiné, et il est obligé de vendre sa collection, évidemment, les décorations, notamment les fameux dindons que vous voyez au musée d'Orsay, c'est un projet de décoration pour le château d'Hochedé, évidemment, tout cela tombe à l'eau. Et donc, Impression Soleil Levant va être revendu, alors évidemment pour moins cher, 230 francs, au docteur de Béliot. Et c'est la fille du docteur de Béliot qui a donné ce tableau Impression Soleil Levant au musée Marmottan. C'est pourquoi il se trouve aujourd'hui au musée Marmottan en 1940. Et donc, c'est par le mari, en quelque sorte, collectionneur d'Impression Soleil Levant, que le destin va lier Monet à Alice. Il faut savoir qu'à cette époque, une toile de Monet, alors ça lui est arrivé de céder ses toiles 50 francs à un marchand quand il avait besoin d'argent, il s'en plaint d'ailleurs dans ses lettres, il dit « je brade mes toiles », etc., ce qu'il refusera de faire par la suite. Hein. Il refusera de brader ses toiles, mais au début, il est obligé. Et les marchands vendent à peu près ses toiles 200 francs. D'accord, c'est à peu près les prix que l'on trouve environ. Ce sont des temps assez difficiles pour Monet, ces années 1870, parce que sa femme, Camille, donc, va donner naissance à un deuxième enfant, qui s'appelle Michel Monet. Et les Monet s'installent à Argenteuil, donc ils quittent Ville d'Avray, ils vont s'installer à Argenteuil, dans une maison qui paraît relativement jolie et relativement cossue, de 1871 à 78. En fait, c'est un leurre, parce que Monet, en fait, vit au-dessus de ses moyens, disons-le clairement. Il gagne environ, si on devait faire une comparaison en euros, il gagne environ 10 000 euros par an, mais il a 1 000 euros de loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, il vit au-dessus de ses moyens et il échappe, il en parle dans ses lettres, il est tout le temps en train de craindre les expulsions. À chaque fois qu'il récupère un peu d'argent, il est obligé de rembourser des dettes. Bref, il vit dans l'angoisse. Et c'est pourquoi il n'arrête pas de solliciter ses copains. Il demande de l'argent à Manet, il demande de l'argent à Zola, etc. Et aussi à cette époque, vous voyez, dans les années 1870, plutôt vers la fin des années 1870, c'est aussi à cette époque que Monet va commencer à rechercher la solitude dans son travail. Il se fait construire ce fameux bateau-atelier. C'est un atelier flottant, alors qui avait déjà été expérimenté par d'autres peintres comme Daubigny, par exemple. Mais Monet va s'en faire construire un, et en fait, ça lui permet de partir seul sur les bras de la Marne ou de la Seine pour aller explorer en fait et trouver des points de vue nouveaux sur la nature. Ça, c'est assez intéressant en fait de voir que il se crée aussi les conditions matérielles d'une solitude et de nouveaux points de vue sur l'eau. Hein, des fois, vous regardez dans les compositions de Monet, l'eau prend les deux tiers de la toile et un tiers pour le ciel, par exemple, ce qui est une vision, on va dire, non conventionnelle de la représentation du paysage. Et donc, il est toujours en proie à ses problèmes d'argent. Je vous lis ce qu'il écrit à Zola, par exemple, dans ces années-là. « Voulez-vous me rendre un service ? Nous n'avons pas un sou à la maison, pas même de quoi faire bouillir la marmite aujourd'hui. Avec cela, ma femme malportante est demandant bien des soins, car vous savez peut-être qu'elle est heureusement accouchée d'un superbe garçon. » Attendez. Oups, pardon. Un superbe garçon, Michel, donc. Hein. « Voulez-vous bien me prêter 2 ou 3 louis ? Et même un seul si cela vous gêne. » Donc ça, des lettres comme ça, on en a beaucoup. Alors, ça va aller de mal en pis, si j'ose dire, puisque ne vendant pas du tout sa peinture, et il se retrouve en fait à devoir quitter cette jolie maison, hein, parce qu'en fait il n'avait pas les moyens, surtout que Monet aimait bien avoir une bonne, un jardinier, etc. Donc tout ça, les gens ne sont pas payés, il a les huissiers derrière lui. Il est obligé de partir et de s'installer dans cette petite maison, beaucoup plus modeste, à Vétheuil. Donc il se décale encore, il s'éloigne encore plus de Paris. Et là, comble de tout, le couple Monet et leurs deux enfants en bas âge ne s'y installent pas seuls, ils s'y installent avec la famille Hochedé, qui est ruinée. Et donc Alice, alors ils n'ont pas encore d'histoire d'amour, hein, Alice, Ernest et leurs 6 enfants viennent s'installer dans cette maison. Alors Ernest, qui a donc ruiné son entreprise, en fait, que va-t-il faire? Il va abandonner sa femme. Il va partir et il va laisser Alice avec Camille, Claude et toute cette marmaille. Vous imaginez 8 enfants et 3 adultes dans cette petite maison. Et donc, le problème, c'est que Camille est mourante. Et Alice, Hochedé, en fait, va s'occuper de Camille. Elle va soigner la première femme de Monet. On pense que c'est à cette période-là que va naître en fait l'amour entre Monet et Alice, autour en fait de la mort de Camille, et aussi du fait que il faut s'occuper des enfants. Je vous rappelle, il a 2 enfants en bas âge, enfin en tout cas un qui est tout petit. Et donc c'est Alice qui va s'occuper de la mourante et qui va s'occuper des enfants. Camille meurt le 5 septembre 1879 à l'âge de 32 ans. Vous imaginez? Elle ne verra jamais Monet glorieux. elle verra jamais cet homme connaître du succès. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, le premier remords de Monet, c'est de ne pas avoir pu apporter à cette femme ce confort. La mort de Camille, cette femme que nous avions vue souriante dans la japonaise, donne lieu à l'un des tableaux les plus étonnants, les plus étranges dans l'œuvre de Monet, c'est ce fameux portrait de Camille sur son lit de mort. Voyez, un mélange très curieux entre ce visage au rictus figé, visage émacié comme celui du noyé, mais en même temps drapé dans un tulle ou dans une gaze comme une mariée. Très étrange tableau, qui a d'ailleurs le format d'une nature morte et dont Monet ne se séparera jamais. Il aura toujours ce tableau jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, il confiera dans une lettre à Clémenceau qu'il se sentait en fait très mal à l'aise face à l'attitude qu'il avait eue devant Camille sur son lit de mort. Il se décrit, il est étonné de s'être vu, je cite, « dans l'état de chercher machinalement la succession, l'appropriation des dégradés de coloris que la mort venait d'imposer à l'immobile visage. Des tons de bleu, de jaune, de gris, que sais-je, voilà où j'en étais venu. » Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il est étonné et affligé de sa propre réaction face à la mort de sa femme. Mais cette réaction apparaît peut-être finalement comme une mise à distance de sa souffrance, ou en tout cas de la peur dans laquelle le plonge la mort de sa femme, lui qui a deux jeunes enfants en bas âge et qui ne sait pas s'occuper des enfants, qui en plus n'a pas d'argent. Alors, juste une mini parenthèse pour vous dire que le thème de la mort, au passage, n'est pas si étranger à la peinture impressionniste. Hein. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ce genre de thématique, mais je vous montre deux exemples ici. Par exemple, le thème du suicidé, un tableau tout à fait extraordinaire d'Édouard Manet, ou le thème de l'enterrement, probablement de Baudelaire, peint par Manet, ou encore, voyez, cette forme de memento mori, cette réflexion sur la mort que l'on trouve chez Cézanne. En fait, il y a plein de thèmes tragiques, si j'ose dire, dans les œuvres impressionnistes, et c'est vrai que ce n'est pas du tout des peintures qui sont mises en avant. Alors, suite à la mort de Camille, évidemment, Alice Hochedé ne va pas s'offrir à Monet comme ça, hein, vous imaginez bien, c'est une femme mariée, hein, y a tous ses enfants, il y a le temps du deuil, etc., puis Monet aimait quand même sa première femme, et donc il va traverser un hiver complètement dans une déprime incroyable, et c'est ce que je voulais vous montrer, parce que ce sont des paysages que l'on ne connaît pas chez Monet. Ce sont des paysages que je qualifierais de cadavériques. L'hiver 1879, les paysages de Véteuil. On n'est pas habitué à ce type de représentation dans l'œuvre de Monet. Pas d'emphase ici, pas de sublime. Hein, des paysages très plats, avec des tons extrêmement sourds. Hein, des paysages tristes. Pourtant, Monet a représenté l'hiver dans certains tableaux, un hiver joyeux, comme dans La Pie, par exemple. Hein. Ici, ce n'est pas un hiver joyeux, c'est un hiver qui est marqué par une forme de détresse. Et d'ailleurs, un élément aussi intéressant dans ces paysages pleins de spleen, c'est le thème de l'eau. Vous savez qu'on parle beaucoup des reflets dans l'eau de Monet, ces reflets pleins de lumière, cette eau limpide ici, c'est de l'eau trouble et de l'eau impure hein, que Monet représente. Et d'ailleurs, ces paysages de Véteuil, on s'en doute peut-être, ne plaisent pas du tout aux collectionneurs. Hein. Quand il veut présenter à Faure, vous savez, un chanteur très célèbre de l'époque qui aimait bien la peinture de Monet, il voulait lui vendre Véteuil dans le brouillard, Tata Faure répond « Mais enfin, mon pauvre Monet, je ne vous en donnerai pas 50 francs. Voyons, ce n'est pas sérieux. » Ce sont des paysages qui ne plaisent pas, mais il est obligé de les peindre. Vous voyez, c'est ce côté autoportrait. Hein. Il ne peut pas faire semblant. Il peint ce qu'il a en lui, et puis c'est tout. Il est tellement à court d'argent, le pauvre Monet, qu'il n'a même plus les moyens de vêtir ses enfants, hein, ni de leur acheter, ni de faire face aux besoins courants pour ses deux fils. Et il doit compter sur la générosité de ses amis, mais aussi sur Madame Hochedé, qui a un peu d'argent de famille. Alors en plus, l'hiver 79, est marqué par un phénomène très curieux, c'est-à-dire qu'il y a eu un gel précoce, puis un dégel en fait, très rapide de la Seine, et donc, si vous voulez, ça a donné lieu à des scènes assez apocalyptiques avec des glaçons, vous voyez, la gel des eaux, puis la montée brutale de l'eau. Et donc Monet, en plus, capte effectivement ces phénomènes atmosphériques et météorologiques tout à fait exceptionnels. Autrement dit, quand on voit les paysages de Véteuil, excusez-moi, mais ça contredit quand même cette idée que défendait Octave Mirbeau, qui prétendait qu'il n'y a jamais eu d'hiver chez Monet. Il y a eu seulement le printemps, l'été et l'automne. Ben non, il y a eu un hiver, en tout cas en 79, Monet a vécu un sacré drôle d'hiver et un hiver particulièrement terrible. Monet se retrouve donc seul avec ses deux fils, en présence de Madame Alice Hochedé et des six enfants de cette dernière. Hein. Alors, c'est embêtant parce que Alice Hochedé est mariée, comme vous le savez, à cette époque. On ne s'affiche pas comme ça quand on est marié. Bon, certes, son mari l'a un petit peu abandonné, il est aussi coupable, mais Alice vit mal quand même cette idée de rendre publique sa relation avec Monet. C'est aussi cet élément biographique qui explique que Monet va vouloir encore s'éloigner de Vétheuil et aller dans un endroit isolé, dans un village. Et il va choisir Giverny. Alors évidemment, qui n'a pas de touriste à l'époque. Hein. La maison dans laquelle s'installe Monet, en fait, est louée. Il la loue en 1883 parce que déjà, elle est beaucoup plus grande, évidemment. Ça ne vaut rien parce que c'est au cœur d'un village excentré. Alors, les enfants pourront aller, les plus grands pourront aller à l'école à Vernon. Mais aussi, il se dit, on ne va pas venir parler de notre couple adultère. Ici, il n'y a personne. Et d'ailleurs, pendant des années, ils vivent quasiment sans avoir d'échange avec les gens du village. Ils restent extrêmement reclus. La maison n'est pas aussi joyeuse qu'elle en a l'air aujourd'hui. Quand, en fait, les volets verts hein, que l'on voit, Monet ne les peindra en vert qu'en 1890, au moment où il va acheter la propriété. Mais pendant 7 ans, les volets sont gris, hein, à la mesure de cette vie un peu cachée que sont obligés d'avoir le couple Monet-Hochedé. D'ailleurs, Monet est assez ambivalent concernant Giverny. On cite souvent cette phrase de Monet, il dit « Je suis dans le ravissement, Giverny est un pays splendide pour moi ». Mais en même temps, dans une autre lettre de la même époque, il écrit « Je sens que j'ai fait une sottise de me fixer si loin. Je suis désespéré. » Vous voyez, c'est un personnage qui est plus ambigu qu'on ne le pense. D'ailleurs, il a du mal à rester à Giverny. D'une part parce qu'il a du mal à supporter cette situation où il sent qu'Alice Hochedé se sent mal. Elle voudrait que son mari divorce, mais le mari refuse le divorce. Donc elle sera obligée d'attendre qu'il meure pour épouser Monet en 1892. Monet l'épousera, hein, il tiendra sa promesse. Et d'autre part, bon, il y a tous ses enfants, il y a du bruit, etc. Et donc, Monet est tout le temps envie de partir, quoi, envie de partir loin. En plus, il y a quand même des difficultés, parce que Durand-Ruel a du mal à vendre la peinture impressionniste. Hein. Comme vous le savez, en fait, Durand-Ruel, il avait une galerie qui marchait bien, mais pas parce qu'il vendait des impressionnistes, parce qu'il vendait des peintres paysagistes de l'école de 1830. En fait, il gagnait de l'argent en vendant des peintres académiques, et avec cet argent, il aidait les peintres modernes qu'il ne vendait pas. En 1882, il y a un krach boursier important qui fait que Durand-Ruel va être obligé de mettre la clé sous la porte. Tragédie pour Monet et ses amis. Durand-Ruel tente le tout pour le tout. Il dit, écoutez, je tente l'aventure américaine. Il part avec 3000 tableaux, dont 48 Monet, s'installer à New York, où il va ouvrir une galerie. Et là, magie de l'histoire, de la vie, ça marche. Les œuvres impressionnistes vont se vendre aux États-Unis. Pourquoi elles ont été collectionnées précocement par les Américains. Et donc, grâce à l'ouverture de la galerie Durand-Ruel, 1887, ça va être la fin des problèmes financiers pour Monet. Hein, les historiens retiennent cette date, 1887. C'est à partir de là que Monet va connaître une sensible amélioration de sa condition de vie. Et qu'il va effectivement s'acheter une voiture, qu'il va s'acheter un appareil photo, il aura carrément une chambre noire près de son atelier, où il fera d'ailleurs des photographies. Regardez ces magnifiques photographies, qui est aussi un autoportrait caché de Monet. Il se représente, mais on ne voit que son ombre au bord du bassin des Naféas. Et d'ailleurs, quand il va avoir de l'argent, Monet va beaucoup l'employer à rénover sa maison et à construire en fait son jardin. Hein, il va faire creuser. Je vous rappelle que le jardin de Monet est un jardin quasiment entièrement artificiel. Il ne faut pas penser que Monet plantait son chevalet devant les nymphéas et puis qu'il peignait comme ça. Monet n'obéissait pas à la nature. Il a façonné la nature pour qu'elle ressemble à ce qu'il voulait faire. Voyez. Et donc, il a fait creuser, il a fait détourner un bras de lèpre, il a fait creuser son bassin aux nymphéas, il a fait ce jardin, c'est lui qui l'a composé, comme un tableau. Il a accordé d'ailleurs autant d'importance à son jardin qu'à ses œuvres peintes. Ce que je voudrais souligner simplement, c'est que même dans ce moment de succès, chaque campagne de peinture est pour Monet une épreuve physique et émotionnelle. Quand il se confronte aux éléments naturels, comme par exemple quand il fait ses campagnes au bord de la mer, quand il va voir les falaises, à Étretat, dans les années 1880, il prend des risques. Même, il frôle la mort. Nous sommes à Étretat en 1885, hein, il a fait plusieurs campagnes de peinture, en 1885, à une époque donc où les affaires commencent à aller un petit peu mieux pour lui. Il travaille devant les falaises à flanc de colline et il racontera à Alice dans une lettre ce qui lui est arrivé, je vous en fais part, je cite. « Je me suis vue de suite perdue, car l'eau me tenait, mais enfin j'ai pu en sortir à quatre pattes, mais dans quel état, bon Dieu ? Avec mes bottes, mes gros bas et ma gâteuse mouillée, ma palette restée à la main m'était venue sur la figure et j'avais la barbe couverte de bleu, de jaune, etc. Le visage de Monet est devenu lui-même une toile impressionniste. » Alors, bien que Monet se soit défendu d'être dans une posture romantique, quand même, c'est un romantique, excusez-moi, il va vraiment au-devant des éléments. Et d'ailleurs, son histoire, ce qu'il vient de raconter dans cette œuvre, rappelle presque mot pour mot l'aventure qui était arrivée à Turner quand il a peint cette toile, qui est aussi une impression. Vous noterez, hein, il n'y a pas que Monet qui fait des impressions. Dans « Tempête de neige en mer », peut-être savez-vous que Turner s'était fait attacher au mât d'un navire et avait observé pendant 4 heures le déchaînement des éléments. C'est une sorte de performance, si l'on peut dire. Donc, effectivement, voyez ici, dans tous les tableaux d'Étretat, on peut dire que Monet fait l'expérience du sublime, c'est-à-dire qu'il cherche des points de vue non conventionnels sur les falaises, il cherche à montrer le caractère spectaculaire des roches sur la mer, il traite aussi de thèmes solitaires, il ne représente jamais les foules de touristes, parce que Étretat était déjà une cité balnéaire extrêmement prisée de l'époque, il cherche des points de vue nouveaux, des points de vue dangereux, hein, qui mettent aux prises en quelque somme l'homme avec la grandeur de la nature. C'est ça que l'on appelle le sublime dans la peinture de paysage, qu'elle soit allemande, anglaise ou impressionniste. Monet, dans ce type de campagne, c'est également le cas à Bordighera ou quand il va peindre sa fameuse série des cathédrales, il raconte dans ses lettres, il est sans cesse tourmenté, il fait des cauchemars, il raconte. Par exemple, quand il est à Bordighera, il dit « J'ai eu tout le temps des cauchemars, voyant mes tableaux faux de ton, puis les apportant à Paris où tout le monde m'assurait ne rien comprendre. » Ou à Rouen, quand il se trouve à l'occasion de 2 campagnes de peinture, il fait un rêve terrible, il écrit « La cathédrale me tombait dessus, elle me semblait ou bleue ou rose ou jaune. » Bref, voyez, il a peur de cela. D'ailleurs, certains ont pu dire que cette esthétique du flou dont on parle à juste titre, cette atmosphère floue que l'on voit dans les sujets de Monet, peut être interprétée peut-être comme une certaine forme de distance que met Monet entre lui et la réalité. C'est en fait une sorte d'instabilité, une sorte d'incertitude dans cette nécessité de saisir ce qui est fugace, une quête d'absolu, non pétrie de certitude, mais au contraire d'incertitude. Monet n'est pas se montre peintre philosophe, hein, qui joue avec les ombres, l'atmosphère et les reflets. D'ailleurs, la thématique de la brume, que l'on voit bien traitée à plusieurs reprises dans les tableaux qu'il peint à Londres, dans ses tableaux, on voit bien que la brume est un élément qui égare notre sens de l'orientation, qui désoriente nos sens, qui nous trouble. Et donc, en quelque sorte, c'est le thème de l'errance que traite aussi Monet dans ses paysages. Alors enfin, je voudrais vous parler de cette dernière dépression de Monet, donc autour de l'année 1911. Il faut dire que Monet sentait que tous ses amis étaient morts autour de lui. Berthe Morisot, morte en 1895, Sisley, mort en 1899, Pissarro, mort en 1903, Degas et Rodin, mort en 1917, Renoir va mourir en 1920, Bon, voyez, ça commence à faire du monde qui tout le monde commence un petit peu à disparaître. Alors, il y a cette atmosphère, voilà, quand même la dernière partie de sa vie. Et puis, le grand sujet aussi de cette dépression, ça va être la mort d'Alice. En 1911, Alice Ojedé meurt. Pourquoi meurt-elle ? Bah, parce qu'elle est malade, mais aussi parce que sa fille Suzanne est morte dans la trentaine en 1899 et elle n'arrivera jamais à se remettre de la perte de sa fille. Et à partir de cette date, en fait, sa santé décline et elle reste dans une sorte d'apathie, même quand ils font des voyages, Monet emmène sa femme à Venise, etc. Ça ne réussira pas vraiment à remettre Alice sur les rails. D'autant plus que, deuxième cause de cette dépression, Monet a des problèmes de vue. À partir de 1912, il est diagnostiqué fermement pour une cataracte bilatérale, avec surtout une prédominance à l'œil droit, mais il s'oppose à toute opération, parce qu'il a peur, évidemment, de perdre la vue, il a peur de la cécité. Ces problèmes ne feront que s'accroître, vous l'imaginez bien. Hein, sa femme ne va pas ressusciter, hein, de fait. Donc, évidemment, il la perd et il se trouve seul. Hein, seul, avec juste une des belles filles qui reste auprès de lui, Blanche. Il a des problèmes de vue. Et en plus, son fils Jean meurt en 1914, en février 14. Il a des problèmes aussi médicaux, il meurt. On ne peut pas le sauver. Et la Grande Guerre éclate. Et ça, c'est évidemment un climat extrêmement anxiogène pour Monet, qui ne se désintéresse absolument pas de l'actualité comme son copain, son homologue Degas. Monet est terriblement touché par la Grande Guerre. Alors, je voulais souligner simplement que Monet n'est pas le seul artiste à avoir été touché par des phénomènes de dépression. D'ailleurs, on remarque que les scientifiques ont souvent noté que les troubles dépressifs étaient plus fréquents chez les artistes que dans la population en général, en particulier les troubles dépressifs liés aux troubles bipolaires. Et on sait que Goya, par exemple, est un peintre qui a eu aussi des grands problèmes de dépression liés à des problèmes de vue. C'est-à-dire que les problèmes de vue chez un peintre entraînent une terrible, évidemment, crainte et beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et Goya, par exemple, qui a perdu de façon transitoire la vue, on est à la fin du 18e, et en plus est gagné par la surdité, va développer une grave, grave période de dépression, lui aussi. Donc Monet ou Beethoven, par exemple, avec sa surdité, Monet n'est absolument pas seul, évidemment, dans ce cas. Alors, voilà, donc, du coup, à cause de ses problèmes de vue, il se fera opérer en 1922 parce que Clémenceau va insister pour que Monet se fasse opérer de la cataracte, opération qui est complètement bénigne aujourd'hui, mais Monet avait très peur à cette époque, et en plus il était infernal avec les médecins. D'ailleurs, le premier médecin qu'il a opéré n'a pas voulu opérer son deuxième œil, parce qu'en fait il y avait une pression tellement forte, c'était les yeux de Monet qu'on opérait, c'était pas n'importe qui, Monet était devenu extrêmement célèbre à cette époque. Et donc il passera le relais à un autre ophtalmo parce qu'il n'en peut plus. En tout cas, vous voyez l'impact que a ces problèmes oculaires sur Monet, c'est-à-dire qu'elle déforme sa vision des couleurs. Par exemple, il ne voit plus la couleur bleue. Et d'ailleurs, il expliquera que, après ces deux opérations en 1922, il va aussi porter des verres, des lunettes de couleur qui vont nettement améliorer sa vision. Mais ça ne redeviendra jamais parfait. Et quand Clémenceau va à l'atelier voir les toiles de Monet, quand vous allez à l'orangerie, vous voyez que les toiles sont très bleues. Ben vous savez que Monet ne voyait quasiment plus le bleu et il ne le faisait que de mémoire. C'est-à-dire qu'il savait, parce que c'était marqué bleu sur son tube, il savait que c'était du bleu, mais il ne voyait quasiment plus cette couleur, ou très mal. Donc ça montre quand même aussi cette capacité à s'abstraire du réel pour utiliser, sans le savoir, des couleurs. Donc voilà, je voulais présenter simplement pour finir, en quelque sorte, cette manière que Monet a eu de répondre à sa dernière dépression. À la fin de la vie, je n'ai pas encore fait l'expérience, mais ça m'arrivera un jour, un moment difficile. Que faire? Comment se réinventer, lui qui a vu tout le monde mourir autour de lui? Eh bien, il ne se laisse pas aller. Et à 80 ans, il se lance, il se dit, je vais enfin faire ce que toute ma vie j'ai voulu faire. Très étonnant ce qu'il emploie comme terme. Il dit, je vais faire des décorations. Ah, il se moquait bien de ceux qui avaient critiqué ses œuvres d'être des papiers peints. Il s'en fiche. Il ne fait pas de différence entre l'art noble et l'art qu'on dit mineur. Oui, il fera des décorations et il assume que son art soit décoratif, comme Matisse assumait le fait que ses peintures soient décoratives. Le décoratif n'est plus un mot tabou dans la peinture du début du XXe siècle. Et donc, c'est assez génial. En 1916, il se fait construire un nouvel atelier dans sa propriété de Giverny parce qu'il veut, c'est hyper moderne, il veut créer non plus des toiles les unes à côté des autres, il veut créer un environnement. Et donc, il fait installer ses grandes toiles sur des tringles qui roulent. Et ça lui permet de déplacer ses panneaux afin de voir quel effet ça fera. En 1918, donc il se lance là-dedans sans savoir véritablement ce qu'il en fera. En 1918, la guerre, ça a été très dur. Lui-même à Giverny a été impacté. Il y avait des blessés qui étaient à Giverny, etc. Pas chez lui, mais dans le village. Et en 18, Clémenceau vient le voir, son vieux copain, et Monet lui dit, écoute, je voudrais faire une donation à l'État, je voudrais offrir des œuvres en signe pour la victoire de la France. Clémenceau est hyper content, etc. Et il n'arrête pas d'encourager Monet. Sauf que Monet Et dans le doute, il trouve que son travail est nul à cette époque. Il crève énormément de tableaux, il détruit des œuvres. Et Clémenceau, et à la fin, quand Clémenceau dit « Écoute, maintenant, il faut que tu donnes ces œuvres pour l'État », on était en 1922, hein. Clémenceau, on a marre d'attendre, Monet n'est jamais content. Et Monet lui dit bah, « Finalement, non, non, je ne suis pas sûr de moi, je refuse, finalement, je reviens sur ma parole ». Clémenceau se fâche et lui dit « Tu sais, il y a une lettre extrêmement célèbre, ça lui écrit, il lui dit « Vous savez, si vous refusez de tenir votre parole, eh bien, je garderai une estime intacte pour ce que vous êtes en tant que peintre, mais par contre, en tant qu'homme, mon amitié s'est terminée. Parce que moi aussi, j'ai connu des périodes difficiles et je n'ai jamais cessé de tenir parole. » Et là, on dit en clair « Je ne serai plus votre ami. Hein, je garderai une estime pour vous en tant qu'artiste, mais l'amitié s'est terminée. » Et Monet ne peut pas supporter cette idée et fait et décide, dit d'accord, et il donne effectivement un ensemble, pas la totalité, un ensemble de panneaux qu'il choisit et qui composeront donc ces fameux nymphéas. Extraordinaire, bien sûr, et merveilleux paysage d'eau. En fait, extraordinaire, c'est que c'est un monument aux morts, en fait. C'est ça qui est incroyable. Monet fait cadeau de cela pour la victoire et pour les morts de la guerre 14-18. Hein. C'est marqué d'ailleurs dans la dédicace, enfin, c'est offert en l'hommage de la, enfin, en raison de la guerre de 14-18. Et Monet a voulu dépasser en quelque sorte ce qu'il avait toujours voulu faire dans sa vie. Il a voulu créer ce qu'il appelle un paysage d'eau. Et en fait, il voulait aussi que ce lieu soit un lieu de recueillement, un lieu de méditation. On voit ici aussi son affinité avec les philosophies orientales, hein, la philosophie zen, etc. C'est un homme qui connaissait, quand il a fait son jardin, il s'est inspiré aussi de le petit pont, etc. Ce n'est pas là par hasard. Hein, quand vous connaissez les jardins japonais, tout élément dans un jardin japonais a un sens. Hein, le passage, etc. Tout a un sens, chaque pierre a sa place. Monet connaissait le symbolisme des fleurs et des pierres, etc. Et il l'employait évidemment dans son jardin. Et donc, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'il finit ses nymphéas, on va dire, dans la douleur. Hein, il écrit, par exemple, « Je sens que je suis à bout de force et que je ne suis plus bon à rien. J'en veux à ceux qui me trouvent du talent, ce qui n'est pas. » Il travaille beaucoup, il se sent vieillir, il se décrit comme un esclave du travail, cherchant toujours l'impossible. On est en 1918. Ce goût de l'impossible, il en parlait déjà à ses débuts. C'est un homme qui n'a jamais dévié de cela. Il écrit des lettres sublimes à cette époque-là. Il écrit par exemple « Moins que jamais, je ne peux distraire un moment de la peinture. Je n'ai plus longtemps à vivre et il me faut consacrer tout mon temps à la peinture avec l'espoir d'arriver à quelque chose de bien, à me satisfaire si possible. » Donc voilà, et quand il fait finalement donation de ses nymphéas, qui est la conclusion de sa vie d'artiste, et ce, finalement son testament artistique, il dit « C'est peu de choses, mais c'est la seule manière que j'ai de prendre part à la victoire. » Malheureusement, je reviens ici à mon point de départ, Monet est mort en 26, il ne verra jamais les nymphéas inaugurés, qui seront inaugurés l'année d'après, dans la plus grande indifférence de la critique d'art française. Et pourquoi ? Parce que dans les années 30, on va dire, La France était fatiguée de l'impressionnisme, on avait marre. Mais par contre, on les redécouvrira plus tard. Hein, plus tard. D'ailleurs, on a quasiment failli perdre cette salle des nymphéas parce que quand on a installé la collection, enfin la donation qui a été faite au musée de l'Orangerie, la collection Walter Guillaume, à cette époque, Madame Walter, qui était la veuve de Paul Guillaume, avait beaucoup d'argent, etc. Elle voulait donner ses tableaux. Elle voulait avoir toutes les pièces pour elle. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a raboté la salle de Monet. Hein, on ne la voyait plus pendant une époque. Hein, elle est quasiment dû disparaître. Et c'est dans les années 90 qu'on a restauré cet espace. Eh bien, par contre, les Américains, eux, s'intéressaient à Monet dans les années 30. Et comme vous le savez, des artistes comme Jackson Pollock, par exemple, ont découvert la peinture de Monet dans ces années 30 parce que Monet était reproduit dans des revues d'avant-garde. Et Monet était devenu non plus le dernier des impressionnistes, mais le premier des peintres modernes. Je vous remercie beaucoup de votre attention.